Comment les détenteurs du capital sont parvenus à exploiter le principal défaut de la théorie de la valeur travail telle qu'elle a été popularisée au XIXe siècle? Presque toute forme de travail peut être décrite comme « aidante » dès lors que son contenu contribue à satisfaire les besoins d'autrui. Nancy Folbre. Je me suis tourné vers l'exemple américain à dessein. Les États-Unis jouent en effet un rôle central dans l'histoire qui nous occupe. C'est là-bas que le principe selon lequel toute richesse découle du travail a été le plus largement adopté jusqu'à devenir du simple bon sens. Mais c'est aussi là-bas que la contre-attaque dont il a fait l'objet a été le plus délibérée, persistante et finalement efficace. Au début du XXe siècle, alors qu'étaient réalisés les premiers westerns, cette entreprise était déjà pratiquement achevée. Aussi, l'idée que les ouvriers agricoles aient été de fervents lecteurs de Marx dans le passé aurait paru parfaitement ridicule à cette époque, tout autant qu'aujourd'hui. Plus important, c'est de cette lutte qu'ont émergé les étranges attitudes à l'égard du travail qui ont rapidement conquis l'Amérique du Nord et qui continuent de se répandre aujourd'hui à travers le monde en disséminant leurs effets néfastes. Nul doute que Lincoln exagérait un peu dans son tableau de la « République des artisans » qui aurait prévalu avant la guerre civile. Il n'en reste pas moins que ce modèle rappelle effectivement l'ancienne tradition du « life cycle service », avec cette différence notable que la majorité des ouvriers sous contrat n'étaient pas désignés comme « domestiques » et ne vivaient pas chez leur employeur. En tout cas, la classe politique regardait bien cette situation comme un idéal à atteindre et légiférait en ce sens. La permission de créer une société à responsabilité limitée n'était accordée à un entrepreneur capitaliste que s'il pouvait prouver que son affaire constituait un bienfait public évident et incontestable. En d'autres termes, la notion de valeur sociale était non seulement reconnue, mais inscrite dans la loi. En pratique, cela signifiait que, le plus souvent, seuls étaient autorisés les projets visant par exemple à creuser un canal ou à construire une voie de chemin de fer. Hormis chez les athées qui vivaient le long de la frontière, les soubassements de ce sentiment anticapitaliste étaient essentiellement religieux. Le protestantisme populaire, puisant dans ses racines puritaines, ne se contentait pas de glorifier le travail. Il soutenait qu'il était un devoir sacré et une proclamation de supériorité morale et politique sur les riches oisifs, pour reprendre les termes de mes collègues anthropologues Dimitra Doukas et Paul Durenberger. C'était une version encore plus explicitement religieuse que l'Évangile du travail de Carlyle, lequel a été baptisé « producérisme » par les historiens, puisqu'elle faisait du travail à la fois une valeur en soi et la seule vraie source de richesse. Tout cela commença à changer au lendemain de la guerre civile avec les premiers frémissements du capitalisme de la grande entreprise qui extrapolait les principes de l'organisation bureaucratique à l'échelle industrielle. Les nouveaux manias de l'industrie rencontrèrent d'abord une farouche hostilité. On les appelait d'ailleurs « barons voleurs ». Cependant, dès les années 1890, ils se lancèrent dans une vaste contre-offensive intellectuelle proposant ce que Doukas et Durenberger appellent « un évangile de la richesse », d'après le titre d'un ouvrage d'Andrew Carnegie. À compter des années 1890, les géants industriels fraîchement constitués, leurs banquiers et leurs alliés politiques, se sont mis à contester le discours moral des producéristes et à élaborer une nouvelle idéologie qui en prenait le contre-pied, soutenant que c'est le capital et non le travail qui crée les richesses et la prospérité. De puissantes coalitions d'intérêts industriels ont joint leurs efforts pour déformer le message que véhiculaient les écoles, les universités, les églises et les groupes civiques. Elles affirmaient que le commerce avait résolu les principaux problèmes moraux et politiques que connaissait la société industrielle. Le baron de l'acier, Andrew Carnegie, était un des fers de lance de cette campagne. Lorsqu'il s'exprimait devant les masses, il défendait ce que nous appelons aujourd'hui le consumérisme. la productivité accrue du capital, concentrée sous la direction avisée des personnes appropriées, allait tellement faire baisser le prix des produits de base que les travailleurs de demain vivraient dans la même opulence que les rois d'hier. Devant les élites, Carnegie expliquait que choyer les pauvres en leur versant de trop gros salaires était préjudiciable à la race. L'avènement du consumérisme a aussi coïncidé avec les débuts de la révolution managériale, laquelle, dans ses premières manifestations, s'est traduite par un assaut contre les savoirs populaires. Alors qu'un tonnelier ou une couturière se concevaient jusqu'alors comme les héritiers d'une fière tradition fondée sur un corpus de connaissances réservées aux initiés, les nouvelles sociétés, avec leur organisation bureaucratique et leur management scientifique, se sont efforcées de transformer les ouvriers en de pures extensions des machines, au sens littéral du terme, puisque leur moindre mouvement était désormais prédéterminé par d'autres. Il nous faut tenter de comprendre pourquoi cette entreprise a connu un succès si retentissant. Car, indéniablement, une génération plus tard, tout avait changé. Le producérisme avait cédé la place au consumérisme. Le fondement du statut social, comme le dit Harry Braverman, n'était plus la capacité de fabriquer des choses, mais celle de les acheter. Quant à la théorie de la valeur travail, entre-temps purement et simplement effacée de la pensée économique sous les coups de la révolution marginaliste, elle était devenue si étrangère au bon sens populaire que de nos jours, plus personne ne sait de quoi il s'agit, hormis les étudiants en économie et les derniers marxistes révolutionnaires. Aujourd'hui, si vous évoquez les producteurs de richesses, tout le monde pensera que vous voulez parler des capitalistes. Certainement pas des travailleurs. Dans les consciences populaires, ce fut un tournant phénoménal. Et s'il a pu se produire, c'est principalement à cause d'un défaut intrinsèque à la théorie de la valeur travail dans sa version initiale. Elle se concentrait sur la production, un concept fondamentalement religieux, mais aussi profondément marqué par le système patriarcal. Même au Moyen Âge, les chrétiens se représentaient leur Dieu comme un travailleur manuel, un artisan. Le travail humain, par lequel on entendait toujours en priorité le travail masculin, était conçu comme l'effort consistant à fabriquer et construire des choses, ou éventuellement à cultiver la terre avec ardeur pour les en extraire. Quant au travail des femmes, il était emblématiquement réduit à la production des bébés. Le travail réel qu'elles abattaient était presque totalement ignoré. Bien sûr, la hausse sans précédent de la productivité sous l'effet de la révolution industrielle a aussi joué un rôle en mettant en lumière l'importance des machines et des personnes qui les faisaient fonctionner. Des arguments qui sont restés au cœur du débat politique et économique tout au long du XIXe siècle. Mais l'histoire n'est pas si rose, même en ce qui concerne le travail en usine. Au départ, les premiers propriétaires n'ont pas embauché dans leur fabrique des hommes, mais des femmes et des enfants, considérés comme plus malléables et, notamment les femmes, plus aptes à endurer des tâches monotones et répétitives. Bien souvent, cela a engendré des situations d'une brutalité terrifiante. Cela a également placé les artisans traditionnels dans une position particulièrement pénible. Non seulement les nouvelles usines les jetaient dehors, mais c'était désormais leurs femmes et leurs enfants qui faisaient bouillir la marmite au lieu de travailler sous leur direction comme avant. Il ne fait aucun doute que c'est un des facteurs expliquant l'apparition des premiers briseurs de machines au moment des guerres napoléoniennes, un mouvement qu'on a appelé ludisme. D'ailleurs, si cette insurrection a pu être apaisée, c'est notamment grâce à un compromis social tacite prévoyant que le travail en usine serait, à l'avenir, majoritairement effectué par des hommes adultes. Pendant la centaine d'années qui ont suivi, les organisations syndicales ont paru se polariser sur les ouvriers d'usine, l'une des raisons étant qu'ils étaient les plus faciles à syndiquer. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la seule mention de la « classe ouvrière » fait instantanément naître dans nos esprits des images d'hommes en bleu de travail s'échinant sur des chaînes d'assemblage. Au point qu'il n'est pas rare d'entendre dans la bouche d'intellectuels bourgeois tout à fait intelligents, par ailleurs, que la classe ouvrière britannique ou américaine, par exemple, a disparu en même temps que le travail en usine. Peut-être croit-il que ce sont des androïdes ultra-sophistiqués qui conduisent leurs bus, taillent leurs haies, installent leurs câbles électriques ou changent les bassins hygiéniques de leurs grands-parents. En réalité, jamais dans l'histoire, le travail en usine n'a occupé la majorité des ouvriers. Même du temps de Karl Marx ou de Charles Dickens, les quartiers urbains ouvriers abritaient infiniment moins de mineurs, d'employés du textile ou de métallos que de bonnes, de cireurs de chaussures, d'éboueurs, de cuisiniers, d'infirmières, de chauffeurs de taxi, d'instituteurs, de prostituées, de concierges ou encore de marchands des quatre saisons. Peut-on dire de ces emplois qu'ils sont productifs? Si oui, dans quel sens? Et pour qui? Qui produit un soufflet? La plupart du temps, dans les débats sur la valeur, nous préférons écarter toutes ces questions à cause justement des ambiguïtés qu'elles comportent. Or, ce faisant, nous occultons un aspect fondamental de la réalité. Nous refusons de voir que le travail ouvrier, qu'il soit accompli par des hommes ou par des femmes, consiste moins souvent à taper au marteau, tailler la pierre, soulever de lourdes charges ou moissonner les champs qu'en des tâches typiquement féminines à nos yeux. S'occuper de ses semblables, tenter de répondre à leurs demandes et à leurs besoins, expliquer, rassurer, anticiper les désirs ou les pensées de ses supérieurs, mais aussi tout ce qui concerne le soin, la surveillance et l'entretien apporté aux plantes, aux animaux, aux machines ou à d'autres objets. Cet aveuglement n'est pas sans conséquence. On l'a vu par exemple en 2014, lors d'une grève des transports londoniens, déclenchée après que le maire de la capitale eut annoncé son intention de fermer une bonne centaine de guichets de vente de tickets, ce qui ne laissait plus subsister dans certaines stations que des automates. Sur la toile, des tenants de la théorie marxiste ont commencé à débattre pour savoir si les travailleurs menacés de licenciement avaient ou non des jobs à la con. L'une des logiques mises en avant était la suivante. Soit un emploi crée de la valeur pour le système capitaliste, or manifestement les capitalistes jugeaient que ce n'était plus vrai de ces emplois-là, soit il remplit une fonction sociale, ici la vente de tickets, dont la nécessité est évidente dans tout système, capitaliste ou non. Or, ce n'était pas non plus le cas, puisque dans un régime intégralement communiste, les transports seraient gratuits. Comme on pouvait s'y attendre, j'ai été invité à intervenir dans la discussion. Pressé de donner une réponse, j'ai choisi de renvoyer mes interlocuteurs à un tract diffusé par les grévistes eux-mêmes et intitulé « Conseils aux usagers du métro londonien du futur ». On y lisait notamment « Merci de vous assurer que vous êtes parfaitement familier des 11 lignes et 270 stations du réseau avant d'entreprendre votre voyage. Merci de vérifier au préalable qu'il n'y aura ni retard, ni accident, ni procédure d'évacuation, ni aucune autre situation d'urgence au cours de votre trajet. Merci de ne pas être handicapé, ni pauvre, ni nouveau venu à Londres. Merci d'éviter d'être trop jeune ou trop âgé. Merci de ne pas être harcelé ni agressé pendant votre trajet. Merci de ne pas égarer vos effets personnels ni vos enfants. Merci de faire en sorte de n'avoir besoin d'aucune forme d'assistance. » Apparemment, chez les défenseurs de la révolution prolétarienne, personne n'avait songé à aller s'enquérir de ce que faisaient réellement les employés des transports municipaux. Du coup, la vision qu'ils avaient d'eux était très proche du stéréotype véhiculé par les tabloïdes de droite, des paresseux surpayés qui se la coulent douce sur le dos des contribuables. En réalité, les activités quotidiennes des employés des transports s'apparentent plutôt à ce que les féministes appellent le travail de care ou travail aidant, et leurs journées ressemblent sans doute davantage à celles des infirmières qu'à celles des maçons. Mais on s'arrange pour faire disparaître des comptes de l'économie toute la dimension de prise en charge que comportent les emplois ouvriers, exactement comme on en efface les soins dispensés gratuitement par les femmes. Certes, En Grande-Bretagne, cette dimension traditionnelle transparaît encore dans la culture populaire, qui est largement un produit de la classe ouvrière elle-même. Ainsi, les gestes, les habitudes, les rythmes caractéristiques du travail des ouvriers et de la façon dont ils s'encouragent les uns les autres se reflètent dans la musique, la comédie et la littérature pour enfants. Mais cela ne veut pas dire qu'on y voit un travail source de valeur en soi. Le travail aidant est tourné vers autrui et implique toujours une part d'interprétation, d'empathie et de compréhension. Dans une certaine mesure, on pourrait dire que, plus qu'un travail, il est simplement la vie, du moins la vie telle qu'elle devrait être vécue. En effet, nous sommes des créatures naturellement empathiques, et pour communiquer ensemble, il nous faut constamment nous imaginer à la place de l'autre, tenter de comprendre ce qu'il pense et ressent. En un mot, nous soucier de lui un tant soit peu. Or, cela devient effectivement un travail quand l'empathie et l'effort d'identification à l'autre ne sont requis que d'une seule des parties prenantes à une interaction. L'élément clé dans la marchandisation du travail aidant, ce n'est pas tant le fait que certaines personnes se préoccupent de leurs semblables, tandis que d'autres ne s'en préoccupent pas, c'est le fait que quiconque paie pour des services, voyez comme on retrouve l'ancien terme féodal, se croit dispensé de ce travail interprétatif visant à comprendre la pensée de l'autre. On l'observe dès qu'un individu travaille pour un supérieur, même s'il est maçon, par exemple. Les subalternes se doivent d'être en permanence aux aguets pour tenter de déterminer ce qui trotte dans la tête de leur patron. Ce dernier n'a clairement pas de souci. Aussi, il n'y a rien d'étonnant à ce que, comme le montrent de nombreuses études de psychologie, les personnes d'extraction ouvrière se révèlent plus douées pour lire les sentiments des autres, plus empathiques et plus soucieuses de leurs prochains, que celles nées dans des milieux plus aisés. En un sens, ce talent à décrypter les émotions d'autrui est directement lié au contenu des emplois occupés par la classe ouvrière. Ainsi, les riches n'ont pas besoin d'apprendre à le développer, puisqu'ils peuvent embaucher des larbins qui le feront à leur place, et qui, en plus, s'occuperont d'eux. Les subalternes ont aussi tendance à se soucier davantage de leurs supérieurs que l'inverse. Cela vaut pour presque toutes les relations marquées par une inégalité structurelle, homme-femme, riche-pauvre, noir-blanc, etc. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire, je suis convaincu qu'il s'agit là d'une des principales forces qui permettent à ces inégalités de se perpétuer. Dans le même ordre d'idées, on peut considérer, et c'est ce que font de nombreux économistes féministes, que tout travail est une forme de soin et d'attention à l'autre. Pour reprendre l'exemple utilisé au début de ce chapitre, quand on construit un pont, c'est bien par souci des personnes qui voudraient pouvoir traverser la rivière. On a vu que c'est aussi en ces termes que les gens réfléchissent à la valeur sociale de leur emploi. Toute cette dimension est opportunément occultée lorsqu'on postule que seul le travail productif est doté d'une valeur, et surtout qu'il est exclusivement incarné par la figure de l'ouvrier d'usine. Dans une telle représentation, ce dernier est celui qui accomplit le tour de magie par lequel des voitures, des sachets de thé ou des médicaments peuvent être produits et comme expulsés des fabriques au terme d'un travail aussi douloureux et mystérieux que le travail des femmes pour produire les bébés. Rien de plus facile ensuite pour les propriétaires d'usines que de clamer « Vous voyez bien que les ouvriers et les machines qu'ils pilotent, c'est la même chose. » Bien entendu, le développement de ce qu'on a appelé le management scientifique a accentué le phénomène. Mais cette évolution n'aurait jamais pu avoir lieu si le paradigme du travailleur dans la conscience populaire avait été le cuisinier, le jardinier ou la masseuse. Aujourd'hui, la majorité des économistes ne voit plus dans la théorie de la valeur travail qu'une survivance des premiers temps de leur discipline. De fait, il existe probablement des outils bien plus efficaces lorsqu'on cherche à comprendre le mécanisme de formation des prix. Mais il se trouve que ce n'est pas cela qui intéresse le mouvement ouvrier, ni sans doute des penseurs révolutionnaires, comme Karl Marx. Pour eux, le cœur du problème est d'ordre philosophique. Il s'agit d'admettre que le monde dans lequel nous vivons est tel qu'il est parce que nous, société, l'avons collectivement fabriqué ainsi. Autrement dit, nous pourrions aussi bien l'avoir fabriqué différemment. Et l'on peut en dire autant de la quasi-totalité des objets physiques de notre vie quotidienne. Tous ont été cultivés ou produits par quelqu'un qui a agi en fonction de sa propre représentation de notre personnalité et de nos désirs ou besoins. C'est encore plus vrai d'abstractions comme le capitalisme, la société ou le gouvernement. Elles n'existent que parce que nous les produisons inlassablement jour après jour. Il y a quelque temps, John Holloway, sans doute le plus poète des marxistes contemporains, a entrepris d'écrire un livre intitulé « Cessons de fabriquer le capitalisme ». Sa thèse était la suivante. Nous agissons tous comme si le capitalisme était une sorte de monstre qui se dresse au-dessus de nous. En réalité, il n'est rien d'autre qu'une chose que nous produisons. Chaque matin, au réveil, nous recréons le système capitaliste. Si nous décidions un beau jour de nous lever pour créer tous ensemble un autre système, il n'y aurait plus de capitalisme. Il y aurait autre chose. Finalement, cette question constitue peut-être le cœur, voire l'essence même de toute théorie sociale et de toute pensée révolutionnaire. Ensemble, nous fabriquons le monde dans lequel nous vivons. Pourtant, si l'on nous demandait d'imaginer un monde dans lequel nous aimerions vivre, personne n'inventerait celui que nous avons aujourd'hui. Nous sommes tous capables d'imaginer un monde meilleur. Qu'est-ce qui nous empêche d'en créer un, tout simplement? Comment se fait-il que cesser de fabriquer le capitalisme, ou le gouvernement, ou au moins les prestataires incompétents et la paperasserie qui nous assomme, soit à ce point inconcevable pour nous? Postuler que le travail est un acte de production nous autorise à poser ces questions, et c'est déjà d'une importance capitale. Mais cela nous permet-il d'y répondre? Rien n'est moins sûr. J'ai pris conscience d'une chose. S'il nous est si difficile de créer une société différente, basée sur un corpus de règles différents, c'est justement parce que nous admettons cela. Le fait que le travail, dans une très large mesure, n'est pas productif à strictement parler, mais relève plutôt du soin, et que même les tâches en apparence les plus impersonnelles impliquent toujours une dimension aidante. Nous avons beau ne pas aimer le monde tel qu'il est, la majorité de nos actions, productives ou autres, vise à faire le bien d'autrui, en général de personnes précises. Nos actions sont imbriquées dans des relations de soins. Le problème, c'est que la plupart de ces relations supposent un monde plus ou moins inchangé à long terme. Par exemple, vous ne mettrez de l'argent de côté pour les études de vos enfants que si vous avez la certitude que dans 20 ans, les universités et l'argent existeront toujours. Un peu comme lorsqu'on se marie et fonde une famille. On renonce au rêve d'un monde meilleur que l'on nourrissait adolescent en acceptant les compromis de la vie d'adulte. En d'autres termes, l'amour que l'on porte à tout autre que soi, personnes, animaux, paysages naturels, exige souvent la sauvegarde de structures institutionnelles que l'on exècre peut-être par ailleurs.